Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Florian, bonjour à tous. J-2 avant le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Vote ce dimanche dans cet archipel du Pacifique Sud, colonisé au 19e siècle par la France. La campagne officielle s'achève ce soir. Si l'indépendance est revendiquée depuis de nombreuses années par des militants kanaks, elle ne suscite pas le même enthousiasme dans le reste de la population. Reportage à suivre à Nouméa.
Et puis le Brésil va transférer son ambassade à Jérusalem. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, l'a confirmé hier. Il prend aussi le populaire juge anticorruption Sergio Moro, qui a fait emprisonner l'ex-président Lula au ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
À la une encore, la crise migratoire à l'échelle de l'Amérique. 1 900 000 hommes, femmes et enfants ont fui le Venezuela ces trois dernières années. La Colombie se retrouve en première ligne, ainsi que d'autres pays d'Amérique du Sud le long de la côte pacifique. En France, un homme est mort dans le Var après avoir emprunté une route interdite à la circulation dans le département qui n'est plus en vigilance orange pour crue. Alerte levée ce matin par Météo France.
Et puis la question du jour ce matin, faut-il craindre une recrudescence du virus Ebola ? Nous en parlerons tout à l'heure avec Anne-Marie Moulin.
Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? C'est la question à laquelle près de 174 000 électeurs sont appelés à répondre ce dimanche. Une partie des Calédoniens, les natifs ou ceux qui sont présents sur l'archipel depuis plus de 20 ans pourront voter. 40 ans d'attente pour les Kanaks, mais les sondages penchent en faveur du camp anti-indépendantiste. Et déjà, les partis politiques se projettent dans l'après-scrutin. Les accords de Nouméa, signés il y a 20 ans, prévoient un deuxième puis un troisième référendum dans les 4 ans. La droite loyaliste entend annuler ces référendums. Quant aux habitants, ils se projettent également dans l'après-scrutin, mais ils se préoccupent avant tout des inégalités sociales et économiques, Mathilde Dehimy.
La Nouvelle-Calédonie est déjà très autonome. Un gouvernement, un congrès, des provinces au large pouvoir. Reste à discuter des compétences régaliennes de la France, la justice, la défense. Et c'est déjà bien tard, dit Ghislaine.
Dès le lendemain du référendum, ce qu'il faut, c'est que nos hommes politiques, qu'ils soient du côté du oui ou du côté du non, parce qu'ils se valent, qu'ils se mettent autour d'une table et qu'il y ait discussion sur qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on n'a pas encore aujourd'hui.
La société a fait son chemin, constate sa voisine André, mais elle n'est pas sereine à la veille du référendum à cause d'une vie chère et d'inégalités sociales, peste Ghislaine.
En 30 ans, on a un peu plus écrasé le petit peuple qui arrive à peine à survivre. On se moque d'eux. Et ça, c'est plus possible. Il faut que ça change. Les provinciales, j'espère que ça va changer.
Les élections provinciales sont dans 7 mois, une nouvelle échéance qui risque de reporter encore les discussions pour Steve, entrepreneur dans le BTP.
On a un désastre économique et derrière, on n'a pas de solution à court terme. Il y a beaucoup trop de corruption, c'est ce qui nous amène à ce désastre-là. Tout le monde s'accommode de cette situation puisqu'elle convient bien à ces quelques personnes en tout cas qui manipulent le pays à l'heure actuelle.
L'écart entre les très riches et le reste de la société se creuse, le coût de la vie pèse sur les portefeuilles. Une donnée à prendre en compte si les esprits s'échauffent après le référendum.
Mathilde Dehimy, envoyée spéciale de France Culture à Nouméa avec Laurent Macchietti à la technique. À 16 500 km de la Nouvelle-Calédonie à Paris, Emmanuel Macron s'attache lui à observer une stricte neutralité avant le référendum de dimanche. Une règle qui n'a pas toujours été appliquée par ses prédécesseurs, Stéphane Robert.
Nicolas Sarkozy s'était rendu sur place en Nouvelle-Calédonie à l'été 2011 et il avait clairement indiqué dans quel camp il se trouvait.
Ici, en Calédonie, chaque force politique a sa préférence. Vous connaissez la mienne. Tout le combat politique depuis les origines pousse chez moi à croire au maintien de la Calédonie dans la France.
3 ans plus tard, en 2014, François Hollande s'était montré beaucoup plus prudent.
La parole de la France, c'est que cette consultation aura lieu à la date choisie et le choix des Calédoniens sera respecté.
Emmanuel Macron, lui, s'est rendu sur le Caillou, surnom de l'archipel, au printemps 2018 et il a emboîté le pas à son prédécesseur avec quand même une petite nuance.
Je ne prendrai pas parti dans ce référendum qui vient. Ce n'est pas au chef de l'État de prendre position sur une question qui n'est posée qu'aux seuls Calédoniens. En revanche, ce que je veux vous dire du fond du cœur, c'est que la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie.
L'évolution de la position des chefs d'État français ne tient pas à leur seule différence de personnalité. Du temps de Nicolas Sarkozy, on était encore loin de l'échéance et il pouvait se permettre d'irriter une partie de la population, notamment les Kanaks, sans que ça porte à conséquence. Avec François Hollande et Emmanuel Macron, c'est différent. À mesure que le référendum approchait, s'est réveillée la crainte que ne ressurgissent les frustrations et la violence d'une partie de la population kanak. Les deux présidents se sont dès lors réfugiés dans une neutralité prudente. et cette position était d'autant plus confortable à endosser que le résultat du scrutin est connu à l'avance. La Nouvelle-Calédonie ne quittera pas le giron de la France. La population kanak, seule communauté potentiellement favorable à l'indépendance, n'étant pas majoritaire dans l'archipel.
7h05 sur France Culture, la suite du journal avec vous Catherine Dutu. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue une décision historique, juste et enthousiasmante.
Après celle donc du président d'extrême droite élu au Brésil, Jair Bolsonaro a confirmé hier qu'il allait transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, une mesure polémique déjà mise en œuvre par Donald Trump pour les États-Unis. Et puis Jair Bolsonaro a convaincu hier le très populaire juge anticorruption Sergio Moro de prendre la tête d'un ministère regroupant la justice et la sécurité publique. Pour l'opposition de gauche, cela confirme la partialité du juge Moro, accusé d'avoir toujours été plus dur contre le parti des travailleurs qu'avec les autres partis politiques. Le juge Moro avait condamné l'ancien président Lula à 13 ans de prison à Nvinia.
Pendant 4 ans, le magistrat a fait trembler le monde économique et politique au Brésil. Il a infligé des peines qui totalisent plus de 2000 années de prison. Les cadres de Petrobras, les opérateurs du blanchiment d'argent et les plus grands patrons du BTP brésilien sont aujourd'hui en prison domiciliaire pour avoir collaboré avec la justice. Mais les politiques sont en prison. Le magistrat a condamné 6 leaders du PT, dont l'ancien président Lula, 4 du parti du président Temer et 2 du parti progressiste, ancien parti de Bolsonaro. La gauche, qui a toujours accusé le magistrat d'être partial, demande déjà une révision du jugement de Lula. Moro avait été en effet très rapide dans cette condamnation, empêchant ainsi l'ancien président de se présenter à l'élection. Le juge avait toujours juré ne pas vouloir entrer en politique. Il a dit accepter l'offre pour durcir la lutte contre la corruption et le crime organisé. Mais il devra aussi s'occuper de dossiers plus polémiques, la permission du port d'armes, la qualification comme terroriste de mouvements sociaux comme les Sans Terre ou la proposition d'abattre les délinquants. Sur ces thèmes, sa vision n'est pas connue, mais elle sera déterminante pour leur approbation.
Et par ailleurs, avec l'arrivée d'un président d'extrême droite au Brésil, les défenseurs des droits de l'homme en Colombie, cette fois, craignent un durcissement régional contre les migrants. La Colombie, où sont réfugiés plus d'un million de Vénézuéliens qui ont fui la crise économique et politique dans leur pays. La correspondance à Bogota de Marie-Ève de Teuf.
Plus de 750 000 de ces migrants sont arrivés cette année en 2018. Il faut y ajouter ceux qui n'ont fait que traverser la Colombie pour aller s'installer en Équateur surtout, au Pérou ou encore au Chili, soit au total plus de 650 000 personnes pour l'année 2018. Les organisations de défense des droits de l'homme considèrent que tous ces chiffres sont sous-estimés. Une seule chose est sûre, la migration s'intensifie et elle pourrait encore augmenter dans les mois qui viennent si la crise continue de s'aggraver au Venezuela. Bogota envisage comme scénario critique l'arrivée de 4 millions de Vénézuéliens d'ici à 2022. Le chef des services migratoires colombiens, Christian Kruger, l'a rappelé, je cite, « La situation de la population migratoire ne se résume pas à un simple chiffre. La société colombienne et les pays de la région doivent s'unir pour accueillir ce flux de migrants. » Fin de citation. Bogota, qui a su éviter tout dérapage xénophobe, appelle à la solidarité, mais les autorités locales colombiennes ne sont pas toujours aussi prudentes et les incidents sur le terrain se multiplient. L'arrivée au pouvoir d'un président d'extrême droite au Brésil fait craindre que le discours régional ne se durcisse.
Et au total, ce sont près d'1 900 000 hommes, femmes et enfants qui ont fui le Venezuela depuis 2015, selon l'ONU. Exode parfois jusqu'au Mexique ou aux États-Unis. Et ce sont bien les pays d'Amérique du Sud qui accueillent le plus de migrants vénézuéliens. Colombie, on l'entendait, Équateur, Pérou et Chili, Olivier Poujade.
Un exode ininterrompu depuis 3 ans qui n'a pourtant pas entamé la solidarité des pays voisins. Les frontières du continent restent presque toutes ouvertes aux réfugiés vénézuéliens. Seul le Brésil leur a fermé ses portes début septembre. Le président Temer a réquisitionné l'armée pour sécuriser la frontière, une mesure annonciatrice de la future politique de Jair Bolsonaro favorable à la création de camps de réfugiés et à une restriction drastique de l'immigration vénézuélienne. Ailleurs sur le continent, les gouvernements s'organisent pour faire face à cet afflux considérable. Mais certaines zones sont sur le point d'être saturées. L'Équateur, avec plus de 500 000 réfugiés, semble avoir atteint ses limites. Un corridor humanitaire a été mis en place cet été pour permettre aux Vénézuéliens de traverser le pays dans de bonnes conditions pour atteindre le nord du Pérou. La ville de Tumbes, vers laquelle se sont précipités cette semaine les demandeurs d'asile vénézuéliens. Un permis de séjour temporaire y était délivré par les autorités péruviennes jusqu'à mercredi dernier. 3 000 personnes se sont massées au poste frontière pour obtenir ce laissez-passer. À leur tour, les autorités péruviennes sont contraintes de contrôler les entrées pour trouver le bon équilibre, déclarait il y a quelques semaines le président péruvien. Les pays d'accueil craignent d'être déstabilisés par ce flux migratoire le plus important dans l'histoire du continent sud-américain.
Crise migratoire depuis le Venezuela, crise politique à l'échelle de tout un continent. Hier, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre le régime de Nicolas Maduro. Le Venezuela accusé de faire partie avec Cuba et le Nicaragua d'une troïka de la tyrannie en Amérique latine. Une formule qui n'est pas sans rappeler l'axe du mal de l'ex-président George W. Bush. Toujours aux États-Unis, Donald Trump ne cesse de durcir le ton contre les migrants à 4 jours des élections de mi-mandat. Après avoir évoqué l'envoi de 5 000 puis de 15 000 soldats à la frontière avec le Mexique, après avoir promis d'en finir avec le droit du sol, le président américain a suggéré hier à l'armée de faire feu sur les migrants si ces derniers les agressaient avec des jets de pierre, par exemple. Retour en France avec une minute de silence et pendant ce temps la tour Eiffel qui s'est éteinte symboliquement cette nuit en hommage aux 86 journalistes tués depuis le début de l'année dans le monde selon l'UNESCO. C'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année 2017 et c'est ce que dénonce Reporters sans frontières alors que ce 2 novembre correspond à la journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Et l'actualité récente en est encore la preuve, Kevin Baudereau.
Il aura fallu une terrible pression internationale pour qu'une partie de la lumière soit faite sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, mais d'après l'UNESCO, dans 90% des cas, les coupables ne sont jamais poursuivis. Une impunité qui hante les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés au Mali il y a 5 ans. Christophe Boisbouvier, journaliste à Radio France Internationale.
Les assassins courent toujours. Cette impunité, elle est insupportable alors que ces gens-là, on les a identifiés, on sait qui c'est, on sait qu'ils circulent toujours entre le Nord-Mali et l'Algérie. Il y a, si vous voulez, un manque de volonté politique qui fait que ces gens-là, 5 ans après, courent toujours alors qu'un jour, il faut qu'ils répondent de leurs crimes. Quand on veut démanteler l'organisation qui est à l'origine du meurtre de Ghislaine et Claude comme celui de tous nos confrères de Malte, de Slovaquie et d'Arabie Saoudite, ça veut dire que derrière, il suffit pas d'un juge, il faut que ce juge soit entouré, soit appuyé. Et il faut aussi vraiment que les pouvoirs publics et que les promesses de Macron soient tenues.
Nous les retrouverons et ils paieront, voilà les mots prononcés par le président de la République il y a 1 an. Depuis, un juge français s'est rendu pour la première fois sur place au Mali, mais pour des raisons de sécurité, il n'a pas pu aller à Kidal, là où Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés.
Kevin Baudereau. Le temps de ce vendredi 2 novembre, encore bien nuageux et parfois pluvieux, la vigilance orange pour crue a été levée ce matin dans le Var. Les températures sont comprises, donc ce matin entre 1 et 6 degrés dans la moitié nord du pays, avec des gelées possibles localement, comptez de 4 à 10 degrés en général dans le sud, Florian Delorme.
Merci Catherine Dutu, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30.